engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Bonjour auditeurs, bonjour auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Campus pour la Rédac Pop. Il y a quelque temps, je me suis rendu à Bordeaux pour assister à une série de conférences autour de la question de la lutte contre les oppressions et les rapports de domination dans les milieux militants. L'une de ces conférences a fait intervenir la professeure Luana Antunes Costa, une militante féministe afro-brésilienne. Elle avait alors présenté ce concept qui serait pour moi une nouvelle piste de réflexion d'un universalisme décolonial. Ce concept afro-brésilien se nomme le senti-pensée. J'ai voulu la revoir afin d'explorer avec elle ce qu'implique ce mode de réflexion qui prend pour point de départ l'expérience du corps. Luana, donc vous êtes professeur à l'Institut de langage et littérature de l'Université de l'intégration internationale et lusophonie afro-brésilienne, UNILAB CE, au Brésil, et vous êtes également militante du mouvement féministe noir brésilien. Donc bonjour à vous et merci d'avoir accepté cette invitation en distanciel.
Merci beaucoup, Steven. Un grand plaisir. Merci.
Je vous en prie. Vous avez été le 9 février à l'origine d'un événement à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme qui s'intitulait « Sentir, penser, agir, rencontres et débats sur les poétiques politiques des femmes afro-diasporiques ». Lorsqu'on s'est rencontrés, vous aviez parlé de ce concept qui est le senti-pensée, un concept qui a été proposé par le sociologue colombien Orlando Falborda en 2009. Et de ce que j'en ai compris, c'est que c'est un mode de pensée où l'émotion et la raison coexistent. Il s'agit ici de parler à partir de son corps, de ses sentiments et de son vécu. Et de mettre en fait en relation politique avec l'expérience du corps et de mettre tout ça en mouvement dans la lutte. Est-ce que déjà avec cette explication, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ?
Oui, merci beaucoup. Oui, c'est ça et un peu plus que ça parce que en fait, on a toujours l'impression que les concepts ils sont créés pour des sociologues, des scientifiques. Mais du coup, c'est que je trouve que c'est très intéressant et c'est ça qui m'émue en fait. Je suis toujours émue quand je parle sur ce type de concepts qui est né dans les communautés, dans les communautés populaires, dans des communautés du Sud. Et là, je parle du Sud plus globalement, du Sud du monde. C'est Orlando Falborda, c'est pas lui qui a créé un concept, mais peut-être il a donné un nom, il a nommé quelque chose qu'il a trouvé dans son expérience quand il était avec la communauté paysanne des pêcheurs, pêcheuses de la partie du Caraïbe colombien. Du coup, il a pris en fait, c'est la communauté qui, je pense que c'est toujours la communauté qui a développé ce concept, en fait, comme une construction épistémique, mais aussi d'un vécu à partir de l'expérience de cette communauté. Mmh. Et lui, il a fait un mouvement vers la communauté. Donc, il a travaillé avec la communauté, il a quitté son bureau, voilà, à l'université, il a passé des temps à dédier ses études sur la façon comment cette communauté paysanne, elle a créé des stratégies pour affronter, par exemple, la colonialité, les asymétries des pouvoirs, comme cette communauté, comme ces hommes, ces femmes, ils se pensent comme dans un mouvement avec la planète d'une façon différente. Et là, je parle un peu plus sur la façon comme on apprend, par exemple, à partir des universités qui sont placées au nord global, à cette autre région du monde. Et là, comme une professeure qui travaille au Brésil, mais aussi en France, je vois cette différence. Mmh. Du coup, c'est plus ça, je pense, que sentir penser à partir d'un regard de Orlando Falsboas, et c'est lui qui a diffusé cette notion comme un sociologue, comme quelqu'un très engagé au domaine de la recherche-action. Mais sentir penser, c'est quelque chose qu'on vit dans les communautés populaires, dans les communautés, mmh. par exemple, dans mon cas, dans la communauté des femmes noires. Et c'est une idée, mais aussi une façon de vivre qui est très présente dans les mouvements de femmes, dans plusieurs mouvements de femmes, soit des femmes rurales, des femmes agricultrices, mmh. ou sinon des femmes quilombola, par exemple, qui ce sont des communautés, au Brésil, on a des communautés quilombola, qui sont des communautés historiquement issues de l'histoire du marronnage, mais elles sont au présent. Donc, même maintenant, elles sont là, toute une communauté qui existe. Et du coup, la façon comme ces gens-là s'organisent.
Oui, ça, je me permets. C'est, en fait, effectivement, il a posé un mot sur quelque chose qui existait déjà. Enfin, moi, je pense à ce livre « Parole aux négresses » d'Awatiam, où, bah, en fait, on a une expérience des femmes africaines qui est mélangée avec une réflexion bah, féministe. Donc, voilà, c'est... Oui. Moi, je voyais aussi ce parallèle-là, en fait. Et effectivement, en fait, c'est des choses qui préexistent. C'est juste que là, effectivement, on a eu un sociologue qui est venu poser un mot sur quelque chose qui existe depuis qui préexiste à sa réflexion.
Oui, tout à fait. Et c'est bien que tu as... J'adore ces livres, Parole aux négresses. Et je parle... C'est un livre que je découvrais il ne fait pas longtemps. Mm-hmm. C'est bien de voyager. Parce que parfois, maintenant, on a la traduction en portugais au Brésil. Mais c'est très, très récent sur la traduction. Et du coup, c'est un livre de la fin des années 70. Mmh. Mais on voit qu'il est pas toujours, en fait, il parle sur toutes ces constructions que les femmes, là, dans les contextes africains, qu'elles ont, des femmes de plusieurs pays différents, de plusieurs ethnies différentes, mais toute une façon de penser, de créer aussi de l'épistémologie, de créer aussi des actions. Et ça que j'aime bien, c'est que Ayatollah, elle parle déjà sur cette agence, ou sinon agentivité, mm-hmm. des femmes, dans ce sens qu'elle va dire, et je pense avec elle aussi, comment il faut agir, en fait. Parler, c'est la même chose qu'agir dans ces mouvements de la construction d'un nouveau monde, justement, à partir de la parole, à partir de la pensée, qui c'est aussi une action sur cette réalité. Et c'est très actuel, ce texte, et la façon aussi que comme de la même façon que Orlando Faz Boas, par exemple, c'est que Ayotsum, elle était avec les femmes, justement. Elle n'était pas éloignée des femmes. Elle était un peu comme une anthropologue, mais comme une médiatrice. Et entre les femmes et nous, entre les femmes et d'autres sociétés. Et je profite pour la remercier pour ce très beau travail qui me touche beaucoup. Et jusqu'à maintenant, ça me permet, par exemple, de suivre mon travail aussi quand j'ai proposé à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme l'organisation de cet événement. Et j'ai pu inviter quelques collègues, des amis en fait, des femmes qui avec qui je partage les mondes du travail, mais aussi les mondes en dehors de l'université, soit dans l'organisation féministe, soit dans d'autres types de mouvements. Voilà, les mouvements antiracistes, tout ça. Et pour moi, c'était une grande chance d'une façon ou d'autre, de construire cette espèce de médiation aussi, de montrer au public, ça s'est passé, l'événement s'est passé à Paris, donc de montrer au public local la façon comment nous pensons aussi différemment, sinon des façons de penser à partir de notre expérience. Et là, c'est très important, à mon avis, parce que tout qu'on parle sur la notion de sentir, penser, et là, en parlant avec Awatsiam Azir, on met en action la façon de vivre des peuples, en fait.
Oui, bah, justement, je voulais que vous puissiez expliquer pourquoi est-ce que cette relation entre le corps et la pensée, elle est fondamentale, en fait. Et justement, comme une critique qui est faite à une pensée qui serait totalement déconnectée du corps, on parle de raison pure, pourquoi est-ce que revenir à une pensée qui part à partir du corps, qui parle à partir du corps, et ben est-ce que c'est fondamental? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu?
Je vais parler plus à partir de l'expérience, par exemple, de peuple afro-brésilien. Et du coup, cette idée que on fait partie de la nature, c'est très ancré dans la philosophie afro-brésilienne. Et ça vient en fait bien sûr de cultures africaines et des cultures de peuples originaires du Brésil, les peuples amérindiens. Et donc, bien sûr que même si on parle à partir du présent, mais on voit que comme on dit au Brésil, nos pas viennent de loin. Ça, c'est cette espèce de proverbe nous montre une direction toujours, qui même au présent, on regarde arrière notre histoire et on voit que même si bien sûr la société, elle se modifie, la façon de penser, de se relationner, mais en même temps, il y a des fragments, on dirait, il y a des fragments culturels africains, des peuples amérindiens qui font partie de la base de la construction de cette société afro-brésilienne. Du coup, cette idée que, et ça, on va voir beaucoup dans les mouvements des femmes, surtout des femmes noires ou des femmes amérindienne, donc c'est une idée que le corps, il n'est pas un corps, il y a le corps individuel, et ça c'est la construction d'une idée qui est différente de l'idée des individus, d'un sujet, c'est l'idée de la personne en fait, une personne, elle existe parce qu'il y a la communauté, et la communauté, elle existe parce qu'il y a cette personne. Dans ce sens, le corps individuel, ok, il existe, mais il est attaché à une idée de communauté aussi. Donc, on va parler d'un corps individuel, on va parler aussi d'un corps collectif de la communauté. Et du coup, ces deux corps, ils font partie aussi d'un corps, on va penser plus élargi, c'est le corps de l'environnement, le corps territoire. cette idée qui on trouve beaucoup dans les mouvements des, par exemple, là je cite un mouvement que c'est les mouvements des Las Margaridas, qui c'est un mouvement de femmes rurales de la région au Brésil, il y a partout, mais la région du Nord-Est, elle est pas, il est particulièrement fort. Et donc, on voit que dans toute l'organisation, cette idée d'attacher la lutte des femmes, la vie des femmes, la vie de la communauté et la vie du territoire, c'est très important. Ce n'est pas séparé,
d'accord,
en fait.
Okay.
Ça, je pense, je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Mais... Si, c'est très clair. Mais, et du coup, je me pose une question. J'avais une interrogation parce que, justement, quand on s'était rencontrés, vous aviez eu cette phrase qui m'avait marqué, qui était qu'on ne pouvait, atteindre la dépendance dans un cas. C'était pas ça. La phrase, c'était on ne pouvait faire la révolution dans un corps triste. Et,
oui.
et du coup, je me pose cette question si on, parce que à ce moment-là, quand j'avais entendu cette phrase, ça avait résonné avec le corps comme individu. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas que ça. Et du coup, comment, en fait, j'aimerais que vous puissiez me reparler de cette phrase et en fait, qu'implique un corps triste, qu'est-ce qu'un corps triste et comment, en fait, pour justement réaffirmer un corps, sortir le corps de cette tristesse.
Cette phrase, c'est pas ma phrase, je l'ai répétée parce que j'ai appris, et c'est une phrase d'une femme de la Bolivie amérindienne, du coup, d'une intellectuelle, enfin, d'une grande maîtresse. Mais ça, c'est très important parce qu'on va penser à partir de cette phrase sur la colonialité, sur comment le travail, il impacte directement, et bien sûr, les mauvaises conditions de travail, les asymétries de pouvoir, il impacte les corps individuels, là, quand on pense les corps individuels, mais aussi les corps de la communauté. Parce que dans ce sens, dans cette idée, et on va penser, on va trouver cette pensée dans les communautés amérindiennes de partout, aux Amériques, on va trouver ça, cette idée, même en Afrique, avec la philosophie, par exemple, là je parle d'Afrique, c'est beaucoup, bien sûr, beaucoup de cultures, mais là je parle plus sur la question de nos héritages au Brésil, sur la philosophie bantou, par exemple, du peuple bantou, sur l'idée de Ubuntu, qui c'est justement ça, c'est montrer que une personne, elle existe parce qu'il y a la communauté, et la communauté, elle existe parce que cette personne, elle existe. Donc, ce sont des relations, des attachements, en fait. Et du coup, quand on voit, et là, on parle, là, je vais justement parler sur les communautés noires du monde, de tous les mondes. Quand on voit qu'on a des sociétés racisées et produites à partir de les asymétries des pouvoirs, de la colonisation, oppression, de la colonialité, on voit que bien sûr que les communautés noires du monde, elles sont très impactées pour tous ces paquets de violences. Et dans ce sens, il y a un corps qui subit toute cette violence. Donc, quand on parle de ce corps, on ne peut pas faire la lutte. Et si on a un corps triste, on ne peut pas avancer parce que notre corps, il est malade. Et pour nous, et en ce moment, c'est spécial au Brésil parce que c'est le moment du carnaval.
Ah oui.
On doit toujours célébrer la joie. La joie, ce n'est pas individuel, en fait. La joie, pour nous, c'est la joie de la vie. C'est la joie comme une stratégie de combat aussi de tous ces paquets de violences que, historiquement, ça revient vers nous, vers nos corps. Donc, moi, j'ai entendu hier un écrivain, Simas, brésilien, qui parlait sur la question de ah, est-ce que quelqu'un l'a posé la question, c'était est-ce que les carnavals, c'est le opium du peuple, cette idée-là de la fête, et là il a dit mais non, en fait c'est ça, on a besoin de créer la fête, de créer la samba, de créer les carnavals sur la rue, justement parce qu'on a beaucoup souffert, on souffre encore comme un collectif, comme un corps collectif. Donc dans ces cas, créer des espaces de la production de la joie, c'est un droit humain.
Oui. Et c'est aussi peut-être une manière d'affirmer une décolonialité des corps aussi.
Je ne sais pas si une décolonialité du corps, mais parce que la décolonialité, je pense qu'elle est un peu, cette idée-là de ce qui est décolonial, elle est un peu datée. Mais ça, je reviens par exemple au début, et là je continue sur l'idée du carnaval. Comment le carnaval est né au Brésil, par exemple, c'était la communauté noire qui ont inventé le carnaval, même pendant l'époque coloniale. Et je ne sais pas si ces mots décolonialité, ils peuvent recouvrir, ils peuvent donner les vrais sens de cette grande invention. Et à mon avis, c'est la joie, elle est révolutionnaire.
D'accord.
Parce qu'en fait, ces gens, si on regarde derrière, on va voir que ça qu'on va trouver sur l'histoire, c'est que ces gens, même pas, ils étaient considérés comme des humains.
Oui.
On parle du temps d'esclavage. Donc, dans cet aspect que les corps d'une personne est transformée dans une marchandise, créer une fête collective qui résiste jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui, même je ne sais pas comment on peut nommer cette stratégie de maintien de la vie. Pour moi, c'est plus ça.
Mais, et du coup, je me pose une question sur la diffusion, parce qu'il y a donc une expérience d'un corps, une pensée qui se structure et une parole qui en ressort. Et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on diffuse tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour les personnes qui n'ont pas le même ressenti? Comment est-ce qu'on fait pour leur en parler? Est-ce qu'on doit mobiliser chez l'interlocuteur une forme d'empathie?
Moi, je suis au Brésil, en fait, c'est que nous, bon, je travaille dans une université déjà un peu différente, parce que Unilab, elle est une nouvelle université, elle est née à partir d'un grand mouvement historique, un mouvement noir, ou sinon un mouvement des femmes noir au Brésil, mouvement des peuples originaires, des peuples amérindiens, des peuples de la campagne. Donc, justement, on a eu un grand moment au Brésil, qu'il y a eu un changement au niveau éducationnel à partir du gouvernement Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva. Au premier moment, quand il prend les pieds dans la présidence du Brésil, et le gouvernement fédéral commence à écouter la voix de la population, de l'organisation des mouvements sociaux. Donc, à partir de ces mouvements-là, on peut parler directement au gouvernement et comme peuple. Et cette université, elle est créée pour établir une coopération avec les pays africains, par exemple. Et pour créer aussi des possibilités de développement pour les régions où il n'y avait pas d'université. Donc, des régions qui sont plus vers l'intérieur des États, soit où je travaille au Ceará, sinon à Bahia. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on travaille beaucoup, nous, les professeurs, les chercheurs, on travaille beaucoup avec les communautés. Il n'y a pas de différence entre la salle des cours je ne sais pas, un coût qu'on va donner sur la place, par exemple, pour la population. C'est, comme on dit, on doit créer ces liens, en fait. Ce qu'on trouve ici en France, je vois à partir de l'université, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres domaines, dans d'autres institutions, mais je vois qu'il y a une organisation structurelle de l'université très hiérarchique. Et parfois, il y a cette déconnexion entre la salle des cours, qu'est-ce qui se passe dans la production du savoir, la transmission du savoir, dans cet espace muré, et qu'est-ce qui se passe en dehors des murs des universités.
Oui.
Et du coup, quand je suis ici, de temps en temps, j'essaie de faire la même chose que je fais au Brésil. Donc, être avec toi maintenant, par exemple, en train de parler de sujets que j'aborde aussi dans la salle des cours et même dans mes textes, dans mes recherches, et essayer de trouver d'autres chemins et d'autres possibilités pour construire ces liens. Mais c'est vrai que ça demande aussi une performance, une position du sujet qui est là, qui parle d'une construction aussi parfois différente. Moi, je viens du peuple, moi, j'ai une construction à partir de l'éducation populaire.
Oui, et du coup, oui, en fait, c'est que vous tendez à briser en fait cette barrière entre l'académie et le peuple, en fait, comme si pour proposer la même chose peu importe l'échelon. Mais du coup, c'est aussi, j'y vois aussi une forme de cassure avec aussi tout ce monde très surplombant et finalement une qui coupe l'éducation, qui coupe l'information et la réflexion à une partie de la population. Et finalement, ce que j'en viens à me dire, c'est est-ce que il y aurait pas, il faudrait pas créer plus d'espaces de dialogue, plus de faire de l'écoute en fait un projet politique en fait.
Justement, en fait, là, quand je suis ici, je parle beaucoup sur ces mouvements-là qu'on a créés au Brésil dans un temps historique et ça qu'on continue à essayer de le faire. Mais du coup, c'est important toujours de créer des politiques publiques qui nous permettent décloisonner les univers des pouvoirs, en fait, parce que l'université, si on va penser, l'université, c'est un espace de pouvoir. Et du coup, il y a aussi toute la population qui est là, qui vit en dehors de, et qui produit aussi des savoirs en dehors de l'université, au-delà de l'université, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on va, dans cette société-là, et là, on pense sur la société française, qu'est-ce qu'on va admettre comme connaissance, quel type de connaissance produite, une connaissance produite pour quel type de sujet? La valeur sur cette production, elle sera donnée pour un groupe très très petit aussi. Donc il y a toujours cette hiérarchie dans la production du savoir et ça que je vois à partir d'autres types d'expériences. À partir même du Brésil, c'est qu'on peut construire des espaces plus pluriels, plus divers, mais à partir de la construction des politiques publiques, en fait. Et parce que les gouvernements, ils passent, il y a des gouvernements d'un tel président, d'un tel groupe, mais quand on a des politiques publiques, elles sont plus efficaces dans ce sens, elles sont plus installées, voilà. Mais bon, il faut toujours, à mon avis, hein, il faut toujours penser d'une façon collective.
C'est un mot qui est contenu dans l'intitulé de votre événement, c'était le mot po poétique. Du
Oui.
coup, j'aurais voulu qu'on parle du rôle de la poésie. Est-ce que, Alors, à la Césaire ou à la Senghor, est-ce que la poésie n'est pas aussi un moyen de parler d'une expérience, de parler d'une expérience et de l'élever en action, de la mettre en mouvement, justement? Est-ce que la poésie pourrait pas aussi avoir ce rôle de vase communicant?
Moi, quand... oui, tout à fait. La poésie, mais aussi quand je parlais sur, quand je pensais à cette relation entre poétique et politique, je pensais dans ce sens qu'on travaille dans les mouvements féministes noirs au Brésil, et aussi dans le sens des glissants, des doigts glissants.
Oui.
Quand il a un texte que j'adore qui s'appelle Poétique de la relation. Et moi, je pense qu'on fait souvent ça, cette façon de penser et de vivre les sentiers pensés, il nous amène toujours vers une poétique de la vie, en fait. Une poétique de l'existence. Et du coup, la poétique, là, quand je parle, c'est plus élargi que les genres poétiques qu'on apprend à l'école, toutes ces règles.
Oui, c'est ça.
C'est chose plus élargi parce que c'est quelque chose qu'on trouve, en fait, dans plusieurs mouvements, soit dans la danse, soit quand on fait les théâtres. Soit quand on chante, il y a cette espèce de disposition corporelle, individuelle et collective pour la beauté en fait. Mais ce n'est pas cette beauté classique, normée, mais la beauté, de la vie.
Oui. Bah, oui, mais en fait, c'est que oui, effectivement, j'entendais pas la poésie au sens bah, comptine. Enfin, voilà. Nous, ici en France, on pourrait citer Jean de La Fontaine, ce genre de choses. Je pensais pas du tout à ça. Je pensais vraiment à cet aspect de mouvement de vie, d'expression, de création, en fait, qui se manifeste dans plein de façons différentes et pas seulement par un texte. Mais je voyais aussi, bah, en fait, la poésie comme bah, ce moyen d'avoir de créer les conditions pour pouvoir accueillir une parole qui serait extérieure à soi en fait, qui permettrait, en art, on parle de pas de côté artistique, ce genre de sortir de soi pour pouvoir apprendre et écouter la parole de l'autre, prendre en compte l'altérité. Je pensais à ça.
Ah oui, non, c'est que tes mots, ils m'ont fait penser à ma dernière classe, que c'était la semaine dernière à Sciences Po. Et j'ai parlé aux étudiantes sur une autrice, une poète que j'adore, qui s'appelle Audre Lorde. Et elle a un texte très, très beau qu'elle va parler sur l'érotique comme une puissance. Et c'est un texte court, mais très poétique. Et en même temps, elle nous donne cette idée-là qu'il n'y a pas, pour elle, il n'y a pas de différence entre écrire les poèmes et se promener avec son aimé au bord de la mer, dans un jour où le soleil brille, quelque chose comme ça. Et donc, bon, quand elle parle sur écrire un poème, bien sûr, c'est son travail, son rôle de poète, comme une écrivaine. Et là, on peut penser aussi sur nous-mêmes, en fait. La relation qu'on établit, et parfois, on apprend à faire ça, on apprend à dissocier le travail, le monde du travail, c'est quelque chose à côté de l'expérience, du plaisir de la vie. Et bien sûr que c'est les systèmes capitalistes, patriarcales, qui nous apprennent tout ça, bien sûr, les pouvoirs hégémoniques. Et du coup, Audre Lorde, elle voit cette relation, que la poésie, elle fait partie de tout. Et en même temps, les plaisirs, bon, son travail, ok, écrit des poèmes, mais aussi les plaisirs, on peut trouver ça au quotidien, quand on aime quelqu'un, mais en même temps, quand on travaille. Et du coup, on va penser, ah, mais qui a cette chance de trouver ça? Mais l'effet qu'on peut penser, et l'effet qu'on peut, elle, dans ce cas, écrire cette autre possibilité du monde, ça, c'est déjà une révolution, dans ce sens que j'accepte pas être, comme on dit, coincée dans une petite boîte et du monde du travail, mmh. où mon corps il sera malade, où je pourrai pas penser pour moi-même, ou même pas j'aurai les forces pour imaginer un autre monde possible.
Et ça me fait penser à ce livre « Universalisme » de Julien Suado et Mame Fatou Niang, qui ont écrit, oui, un livre sur l'universalisme et justement qui remettent en perspective l'universalisme dit républicain, qui montre que en fait on peut penser un monde, un universalisme très différent qui serait à la fois mouvant, pluriel et qui justement, comme vous avez dit, ne rentrerait pas dans des boîtes en fait toutes faites. Ça me fait penser que justement on peut peut-être voir l'universel autrement.
Oui, exactement. Et le fait qu'on puisse imaginer, c'est intéressant parce que moi, il fait pas longtemps, mais de temps en temps qu'on suis ici, mm-hmm. et je suis invitée pour parler sur cette idée de universalisme. Moi, je participe aussi à un groupe, c'est un séminaire qui s'appelle Universel. Et décolonial universel qui est organisé par le professeur Michel Kaim et pour l'écrivain chercheuse comment elle s'appelle, ça va venir, Elara Berto, justement.
Okay.
Mais cette idée, tu sais qu'il y a quelque chose d'intéressant, cette idée sur l'universel, c'est quelque chose qui on parle pas beaucoup au Brésil, même au pays du Sud,
d'accord,
de l'Amérique du Sud. C'est, cette idée, je vois plus comme une question en France.
Mm-hmm. Oui.
C'est pas une question qui nous touche beaucoup là-bas, même si, bien sûr, et là, dans les cas des universités brésiliennes, les plus anciennes, elles sont créées à partir de la colonisation. Bah, donc, cette idée universelle française, la France comme un modèle de rationalité, ça a été implanté au Brésil aussi.
Ah, c'est ça, c'est des communautés afro-descendantes issues des diasporas. J'imaginais en tout cas que ces notions avaient passé l'océan et étaient aussi un peu discutées au Brésil notamment. Visiblement, ce n'est pas le cas.
Non, c'est pas les centres du débat. Qu'est-ce que je vois, c'est que bien sûr que il y a cette idée sur la construction d'une, par exemple, du quel est, c'est ça que je parlais, quelle est la matrice, on dit comme ça, non?
La matrice
de la vraie connaissance. Un modèle des beautés et de pensée, les rationalismes, tout ça est implanté comme un corpus colonial, voilà, mmh. qui est implanté au Brésil. Mais je vois que la question au Brésil, par exemple, sur le racisme, la race, c'est une question qu'on parle tout le temps. Mais on parle sur ça. La question, d'accord, raciale au Brésil, c'est quelque chose qui n'importe où tu vas entendre. Les gens, sur la rue, ils vont parler, sinon, dans l'université, on va parler aussi.
D'accord.
C'est quelque chose de très, très fort, la question du racisme. Mais, par contre, en France, je vois toujours quand on touche cette question au domaine public, Et c'est une question, on peut parler, mais on ne peut pas parler.
Oui, il y a beaucoup
Il y a
de...
toujours la façon de parler. Les gens, parfois, on ne peut pas parler directement sur la question. C'est quelque chose qui, je vois, qui, ça dérange si on parle parfois.
Oui, c'est ça, c'est vraiment c'est une question, comment dire, un peu sensible, où visiblement il y a des choses qui ne sont pas assumées. En fait, c'est tout le problème, hein. En tout cas en France, c'est bah, un pays qui n'assume pas son histoire coloniale, qui n'assume pas son passé esclavagiste et qui préfère renier tout ça pour pouvoir affirmer des valeurs d'universalisme, d'humanisme biaisé finalement, justement pour pouvoir éviter d'avoir à trancher ces questions, d'avoir à se prononcer même sur ces questions en fait. Donc oui, ouais, c'est sûr que entre le Brésil et la France, qui sont bah, aussi dans des positions très différentes, parce qu'il y en a un, ça a été un pays colonisé, et l'autre a été le pays colonisateur. Donc forcément, les positions sont différentes. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup absent et plein de non-dits en France, les questions de racisme.
Et oui, justement. Et là, c'est un peu, c'est curieux parce que justement, quand je suis en Vietnam, moi, je travaille sur un champ d'études qu'on va dire au Brésil, s'appelle éducation pour les relations ethno-raciales. Et du coup, quand j'arrive ici, je suis professeure aussi de littérature africaine, mais surtout, je travaille, même j'ai déjà travaillé au niveau du gouvernement, pour créer des politiques, publiques pour, l'installation d'une nouvelle cadre d'enseignement, pour la question, justement, pour parler sur l'histoire d'Afrique dans les écoles. On a même une loi au Brésil, une loi fédérale qu'oblige à toutes les écoles publiques et privées de enseigner aux enfants, même au niveau du lycée, l'histoire d'Afrique et l'histoire afro-brésilienne des Africains au Brésil et des afro-descendants. Et
D'accord.
la même chose par rapport au peuple originaire, au peuple amérindien. Je dis amérindien et originaire même. Oui, parce que nous, on parlait indigènes au Brésil, ça veut dire un peu indigène,
Oui, c'est
entre
ça.
guillemets. Mais là, c'est les peuples originaux, les peuples qui sont encore au Brésil. Ils sont pas disparus, ils existent. Ils sont un croisement, en croissance, en fait, comme communauté toujours, une communauté très diverse, très plurielle et très ancienne. Mais du coup, tu vois, il y a des lois au Brésil. On a pu construire des lois pour établir un enseignement au niveau national pour cette espèce de réparation historique.
Mais
Non,
oui, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé.
non, non. Même, et là, il faut dire, même si il faut considérer que le Brésil, c'est un pays des dimensions continentales, donc c'est très difficile dégérer les politiques publiques pour tous les pays, parce que chaque région a une façon différente, même d'organisation, voilà. Mais en même temps, au niveau fédéral, on a des lois, on a pu créer des politiques publiques dans ce sens.
D'accord.
On a maintenant un ministère pour les peuples originaires. On a un ministère pour la question raciale au Brésil aussi. Donc, et ce sont des politiques publiques, c'est ça que je dis
Oui.
que c'est important. Et dans ce sens, quand je vis en France et j'entends la complexité aussi de la société française, elle est différente dans plusieurs aspects par rapport au Brésil, mais les racismes partout, ils existent comme un fait historique.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant en fait, justement, c'est que moi je suis français afro-descendant, vous êtes brésilienne, afro-brésilienne, et du coup on a un passé commun, mais avec des préoccupations, enfin des questions plutôt, qui sont finalement, moi que je trouve quand même communes, mais qui prennent des prismes, des portes d'entrée un peu différentes. Et c'est ça que je trouve intéressant, et je trouvais que justement dans ce concept de senti-pensée, il y avait vraiment une forme de rupture avec ce que moi je connais en tout cas, et même avec ces notions de qu'on nous avance de modernité qui ferait que la modernité supprime les différences. Et en fait, de ce que j'entends, c'est qu'au Brésil, l'approche n'est pas du tout la même.
En fait, ça que c'est important de dire aussi, c'est que c'est toujours un champ de dispute, de force, en fait. Parce que moi, je parle à partir de, bien sûr, de mon vécu aussi, comme une femme noire brésilienne, et je m'énonce comme ça, comme une femme noire. Et j'appartiens à une communauté afro-brésilienne, voilà, je suis engagée à l'université comme une militante aussi, une chercheuse, mais aussi une militante. Mais c'est à partir de cette espèce de vécu aussi collective que je parle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec comme moi dans cet espace de pouvoir. Par exemple, c'est l'université française. On ne voit pas ça. Et ça, c'est important de dire. Et que même au Brésil, hein, par exemple, les professeurs qui appartiennent à la communauté noire, donc les professeurs noirs de l'université, ils sont très, très peu. Nous ne sommes même pas 2%. 2%, je dis, dans toutes les universités publiques. Non. Parce que, donc, on parle sur ces champs des disputes. Moi, j'insiste sur ça. Pour qu'on puisse avoir une idée comment les passés historiques, bien sûr coloniales, l'histoire de la traite, ça a provoqué un grand impact pour le développement économique, social, humain de la population afrodescendante. Et ça, c'est la réalité du Brésil, mais c'est la réalité aussi de plusieurs pays des Amériques. Donc, il faut situer ça, et je pense aussi pour répondre à l'autre question, je vais juste finir, que c'est pour ça que pour nous, la question, on parle beaucoup sur la question raciale, on parle beaucoup sur les racismes, parce que les racismes aussi, ils font partie de ce type de tous ces paquets systématiques de violences coloniales et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et ça qui fait qu'on pèse la population noire, qui c'est majoritaire au Brésil, d'avoir des situations pour les bien vivre, aux situations de dignité basiques parfois. Donc, on parle des choses très, très sérieuses, ce qui, on va penser que un pays comme le Brésil, continental, où la plupart de la population est la population noire et amérindienne, et cette grande partie de la population majoritaire, elle est exclue des postes de pouvoir. Même au système éducationnel, si on va penser, pour les universités et tout. Donc, c'est pour ça que dans nos cas, les politiques publiques, elles sont très, très importantes pour cette population. Et là, on peut penser dans les cas de la France aussi.
Oui, effectivement, c'est aussi une question qui se pose ici. On a encore un peu de temps, mais très peu. Du coup, je voulais quand même vous poser une question sur justement ce concept de senti-pensée, sur tout ce dont vous avez parlé, les mouvements féministes, noirs brésiliens. Est-ce que vous auriez des références un petit peu pour que moi et les auditeurs auditrices puissent consulter pour justement en apprendre un peu plus, pour découvrir un peu toute cette réflexion qui se structure au Brésil.
En fait, en français, c'est la question de la traduction, c'est toujours difficile,
Oui, et puis
mais
évidemment.
Oui, parce qu'on a toute une production, surtout des femmes, des intellectuels. Et là, quand je parle des intellectuels, ce sont des femmes qui sont attachées au peuple, en fait, comme moi. C'est un autre concept, une autre idée sur les intellectuels. Ce sont des femmes de la communauté, qui organisent la communauté aussi, mais qui font partie aussi de cet autre monde plus. Le monde des universités, voilà, donc elles font la traversée du monde. Mais ce que je pourrais vous conseiller, c'est que il y a beaucoup de textes, chaque fois plus, et je suis contente pour ça, qui sont traduits par la maison d'édition qui s'appelle Anacaona. Des textes des autrices. Engagée, noire et tout. Donc, la maison d'édition Anacaona, elle travaille beaucoup dans cet aspect de diffuser la connaissance produite par des femmes noires brésiliennes. Alors, il y a des textes de Djamila Ribeiro, par exemple, qui sont traduits. Lélia Gonzalez, que j'admire beaucoup, et je travaille beaucoup sur sa pensée, c'est elle qui a créé les concepts, même une idée sur améfricanité, qui ça veut dire les dialogues et une façon de vivre ensemble des communautés noires de toutes les Amériques, et là, y compris les Antilles. C'est
D'accord.
très intéressant, son travail. Et là, je remercie aussi au travail des traductions de Jules Falquet. Jules, querida camarada, querida companheira, une très chère camarade, companheira, que c'est quelqu'un qui travaille, il y a des années, qui travaille aussi pour traduire ses pensées et diffuser la pensée des femmes. De l'Amérique du Sud en France. Donc, on peut trouver. Et elle vient de publier son dernier livre. Très intéressant, sa recherche, son ouvrage qui parle aussi sur une critique sur la colonialité et à partir aussi de la production des enfants. Et là, on va penser dans la situation des femmes. Et dans les Amériques, quels sont les enfants qui sont produites pour les capitales pour vivre la belle vie et quels sont les enfants qui n'ont pas les droits de vivre la belle vie. Ça, c'est très intéressant de penser et enfin de suivre là un peu ce qu'elle a écrit. Du coup, c'est Jules Falquet, son travail, c'est un travail très, très intéressant, un travail lumière. Et une grande traductrice, parce que c'est grâce à Jules que j'ai pu construire mon cours sur les épistémologies du féminisme noir du Brésil et du mouvement féministe noir des États-Unis. Donc, c'est elle qui a fait la plupart des traductions des autrices sur lesquelles on a travaillé à Sciences Po. Et toujours, et là, je dois. Justement, toujours recommander qu'on puisse lire et dédier un peu plus de temps pour lire la li littérature produite pour ces femmes. Et je parle maintenant de Conceição Evaristo, qui c'est une grande dame de la littérature afro-brésilienne. Et elle est publiée en France aussi pour la Maison des femmes, édition des femmes. Et pour Anacaona aussi. Et une grande traductrice du vécu des communautés afro-brésiliennes et à travers sa littérature. Donc, je recommande fortement son travail. Et voilà. Et moi, je serai toujours disponible par mail, par les réseaux sociaux. On pourrait continuer ces débats, ces dialogues.
Bah avec plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup du temps et de cette découverte de cette nouvelle de cette nouvelle possibilité que vous m'avez offerte avec du coup ce concept. Et je vais continuer moi mon travail de recherche et de compréhension du monde à travers d'autres mondes justement que le mien. Je trouve ça super intéressant et je trouve que c'est une bonne façon aussi de décloisonner les pouvoirs, comme vous avez dit, de décolonier, d'éduquer mon corps autrement, de sortir de cette colonialité, de ce monde en fait capitaliste. Donc pour tout ça, je vous remercie beaucoup et j'espère pouvoir échanger encore avec vous par d'autres canaux.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Sylvain, pour. Enfin, on a commencé à parler au premier moment, il y a quelques mois, et je suis très contente que là, c'est ma dernière semaine à Bordeaux.
Ah oui.
Je rentre chez moi, et pour moi, je reçois cette invitation, ton invitation, comme un grand cadeau. Donc, merci beaucoup. Et je suis contente parce que c'est un peu les bilans là, de mon travail pendant 6 mois ici.
Ah, merci.
Et merci beaucoup pour cette opportunité de dialoguer avec toi et avec tout le monde. Et j'espère que oui, qu'à la prochaine fois, même on puisse faire un autre si tu es dispo. Moi, à partir du Brésil. Merci
avec
beaucoup.
Avec plaisir. Bonjour, merci. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.